Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. La COP26 a ouvert à Glasgow après un G20 assez tiède sur les questions d'environnement. Et aux premières heures du grand sommet, peu d'annonces concrètes encore. Il est pourtant considéré par les spécialistes comme celui de la dernière chance pour éviter un réchauffement incontrôlé de la planète. En Italie, la Sicile fait actuellement le bilan des dégâts matériels et humains causés par une semaine de pluie diluvienne et le passage d'un ouragan méditerranéen, également appelé Medicane. Le Medicane est un phénomène météorologique assez rare et violent qui pourrait devenir de plus en plus courant avec le réchauffement climatique. Les précisions de Cécile Debarge.
Météorologiquement parlant, la Sicile revient d'une semaine apocalyptique. Plutôt habituée à un automne ensoleillé et à des températures encore agréables fin octobre, la plus grande île de Méditerranée s'est retrouvée submergée par des pluies torrentielles qui ont fait au moins 3 morts. Voitures emportées par les flots, terrasses de restaurants sous l'eau, cascades dévalant les escaliers de la petite place où s'installe d'ordinaire le marché aux poissons de Catane coulaient debout. Il a plu en Sicile en 48 heures, l'équivalent d'un an de pluie, en particulier dans la partie occidentale de l'île où Catane s'est retrouvée complètement inondée. À peine la décrue entamée, la région a émis une alerte rouge pour la façade ouest en incitant les habitants à rester chez eux, fermant les écoles et suspendant une partie des transports à l'approche d'Apollo, un ouragan de type tropical. Mais que se passe-t-il donc en Méditerranée pour que la Sicile se retrouve littéralement au cœur du cyclone une fois encore? C'est un signe, selon les chercheurs, que le climat du sud de l'Italie se tropicalise sous l'effet du réchauffement climatique et pourrait être de plus en plus exposé à ces phénomènes météorologiques extrêmes. Cet été, le sud de l'Italie, et en particulier la Calabre et la Sicile, avaient été touchés par des vagues de forte chaleur. La ville de Syracuse a même enregistré un record historique de près de 49 degrés au mois d'août, et les deux régions avaient aussi été dévastées par les incendies. Or, les fortes pluies et les ouragans Medicane se forment en général à la fin de l'été, lorsque les eaux de la Méditerranée sont encore chaudes, un phénomène qui pourrait s'intensifier dans les années à venir si les températures estivales continuent d'atteindre des records.
La neutralité carbone, un enjeu crucial. Plusieurs pays ont annoncé leurs objectifs hier. L'Inde et son 1,3 milliard d'habitants en visent l'équilibre à 2070. Pendant ce temps, en Europe, une toute petite île britannique fait le pari d'y parvenir dès la fin de la décennie. Rathlin et ses 150 habitants au large de l'Irlande du Nord entend montrer l'exemple au reste du Royaume-Uni. C'est un reportage de notre correspondante Emeline Vin.
Après une demi-heure de ferry, le port de Rathlin apparaît, surplombé par d'impressionnantes falaises peuplées d'oiseaux.
Plus de 200 espèces sont recensées.
Liam McFall, gardien ornithologique de l'île.
Les colonies d'oiseaux marins sont d'envergure internationale. 140 000 guillemots, plus de 20 000 petits pingouins. Tout le monde adore les macareux, mais il y en a de moins en moins. Ces 15-20 dernières années, nous avons vu une baisse significative de la population de macareux.
Également agriculteur et pêcheur, Liam McFall supervise le travail de conservation sur l'île pour protéger d'autres espèces moins connues et plus menacées comme le râle des genêts. Il n'y a pas que les oiseaux qui subissent le dérèglement climatique. Du vieux bateau de pêche rouge où elle vit, dans le port de Rathlin, Charlie a remarqué les changements de biodiversité.
Cette année, il n'y a pas eu de requins pèlerins. D'habitude, il y en a plein. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de dauphins dans la baie. Et maintenant, nous avons des groupes de 200 dauphins. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Des dauphins, c'est super, c'est magnifique. Mais pourquoi sont-ils là? Est-ce que l'eau s'est réchauffée? Est-ce qu'ils manquent de nourriture ailleurs?
La liste se prolonge. Accumulation de sargasses sur les plages, multiplication des tempêtes, de plus en plus violentes. Alors, l'association communautaire de développement de Rathlin, une sorte de conseil municipal, s'est donné un objectif, devenir neutre en carbone, zéro émission de CO2 d'ici 2030. Comment ? En produisant de l'énergie éolienne et solaire, explique Michael Cecil, président de l'association.
Si nous parvenons à transformer cette énergie en gaz, en hydrogène, alors on peut la stocker et avoir de l'électricité en permanence. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons générer cet hydrogène pour l'utiliser pour nos ferries, nos véhicules et le chauffage de nos maisons.
heating for houses.
Entre 1992 et 2007, l'île était déjà approvisionnée par des éoliennes devenues obsolètes car trop petites pour que leur maintenance soit rentable. Savoir que ça peut marcher, c'est ce qui motive l'association malgré le manque d'argent et les difficultés administratives. Tout ce qui manque au projet, c'est l'investissement financier.
Nous allons vendre l'hydrogène, en faire commerce. Nous pouvons financer l'investissement initial nous-mêmes, puis utiliser les bénéfices pour rembourser. Mais si le gouvernement nous aide à démarrer, nous pourrons réinvestir les revenus dans l'île.
Premier achat prévu, une flotte de vélos et de voitures électriques pour un usage collectif partagé. Sur l'île, l'écologie est un état d'esprit. Le magasin de souvenirs a déjà abandonné tout plastique. Pour certains, c'est même le cœur de leur business. Kate Burns est la première entrepreneuse de la région à s'être lancée dans la culture de varech alimentaire.
Avec les défis actuels autour de la production alimentaire, c'était une opportunité de produire un aliment qui, plus vous en produisez, meilleur il devient pour l'océan, pour l'environnement, sans aucun engrais ou pesticide.
En plus, le varech, malgré sa texture visqueuse et faible en calories, est bourré de calcium et d'antioxydants. Comme tout pionnier, l'ancienne consultante a dû tout apprendre. Comment faire grandir le varech, comment le faire pousser en pleine mer. Cette fille pêcheur est toutefois bien consciente des paradoxes de sa démarche.
Notre bateau possède un vieil engin de tracteur. Nous aussi, nous devons faire quelque chose pour notre consommation d'essence. Ça va nous coûter cher. Et puis la technologie n'est pas encore au point.
Tous espèrent faire de leur statut de futur modèle écologique un argument touristique et un exemple à suivre pour Michael Cécile.
Ce serait tellement plus simple de ne plus y penser et de laisser quelqu'un d'autre agir. Si nous, à Raslin, on peut atteindre, espérons, zéro émission, alors tout le monde peut le faire, n'importe où, au Royaume-Uni, en Europe et dans le reste du monde.
L'association communautaire espère que le gouvernement local va débloquer des fonds pour un projet pilote sur Raslin d'ici début 2022.
L'économie circulaire est en plein essor et c'est une bonne nouvelle pour la survie de la planète. Un documentaire sur le sujet sort ces jours-ci. Son auteur, le néerlandais Robert-Jan van Oktrop, est également fondateur d'un organisme qui propose des solutions pour accélérer la mise en œuvre de ce modèle. Le film Going Circular sort en avant-première le 4 novembre sur la plateforme Curiosity et il sera projeté aux participants à la COP26 à Glasgow. Notre correspondante Anne Leray l'a vu pour nous et elle a rencontré son auteur à Amsterdam.
Il y a des gens qui veulent changer le monde et Robert-Jan van Oktrop en fait partie. Ancien chef d'entreprise, rompu au rouage de la finance et du marketing, il décide un jour de s'accorder un congé sabbatique pour prendre du recul. Il part marcher dans la brousse en Afrique, passe plusieurs nuits à la Belle Étoile pour se reconnecter avec la nature et se pose la question de son rôle en tant qu'humain. En intégrant des ONG environnementales, en investissant dans les énergies renouvelables et en créant la fondation Circle Economy à Amsterdam, il s'oriente alors vers une série d'actions et de responsabilités qui veulent rendre le monde plus durable.
Je pense que nous savons tous que le monde est en danger avec le réchauffement climatique et la disparition progressive de la biodiversité. De plus en plus de personnes ont la conviction qu'il faut faire quelque chose. Les gens veulent de l'espoir, de l'inspiration, de nouvelles solutions. Nous devons arrêter de parler, il est temps d'agir. Oui, il est déjà très tard, mais si nous joignons nos forces et que nous allons vers un changement systémique, je souligne systémique, il y a encore un espoir que le monde puisse offrir aux prochaines générations une planète où elles pourront vivre.
Opérer une transition vers une économie circulaire, respecter les limites de la nature, c'est selon lui la solution à la crise environnementale que nous traversons. Il s'agit pour cela de favoriser l'utilisation de ressources renouvelables, réutilisables et non toxiques en guise d'énergie et de matériaux. Notre façon de consommer est entièrement à repenser, explique-t-il. Prendre, fabriquer, jeter, doit devenir réduire, réutiliser et recycler. Un concept qu'il partage depuis 10 ans avec les entreprises et les villes qui l'accompagnent. Bâtiments, équipements et textiles, mais aussi emploi et finances, sa fondation fournit des feuilles de route et des outils pour réduire les empreintes écologiques, la production de déchets et repenser les chaînes de production. produire un documentaire pédagogique pour expliquer les vertus d'une vie plus circulaire à un public plus large et pour lui une façon d'amplifier son action.
De nombreux documentaires tels que Inconvenient Truth, Conspiracy, Seaspiracy ou Blue Planet ont été réalisés pour faire grandir la prise de conscience, le fait que quelque chose ne tourne pas vraiment rond dans la façon dont nous gérons notre planète. Mon documentaire dit oui, tout ça est totalement vrai, mais la bonne nouvelle est qu'il y existe une solution, et la solution est de devenir circulaire. Les déchets n'existaient pas avant que nous soyons sur Terre et ils n'appartiennent pas au fonctionnement naturel. L'économie circulaire, ce n'est rien d'autre que de créer un système économique et social qui respecte les règles de la nature et la façon dont cette planète fonctionne.
It's this incredible juggling act of the same materials over and over and over again.
Going Circular met en scène quatre personnalités. Un scientifique indépendant, âgé de 102 ans, une biologiste, un architecte designer et un ancien ponte de la finance. Nous partageons leur prise de conscience environnementale survenue pendant l'enfance, ce moment où ils ont vu le monde basculer vers une consommation effrénée, et la façon dont ils ont décidé d'entrer en résistance en cherchant des solutions concrètes chacun dans leur domaine.
We have to leave the world.
Nous devons quitter le monde de la compétition qui répond à un fonctionnement linéaire daté pour aller vers la collaboration, travailler ensemble et trouver une façon avec tous les acteurs concernés pour concrétiser des solutions. Ce documentaire s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, à tous ceux qui sont intéressés et qui devraient être intéressés par l'avenir de cette planète. C'est aussi simple que ça. Nous parlons de la survie de la Terre.
En Europe, quand on parle climat, ce sont souvent les plus jeunes qu'on entend, ceux qui prennent l'initiative. Un exemple en Belgique, avec cette campagne pour faire généraliser l'affichage d'EcoScore sur des produits alimentaires, à l'image de ces étiquettes Nutri-Score qui vous disent en principe si un aliment est bon à la santé. Et l'initiative fait débat. C'est un reportage de la RTBF signé Myriam Bell.
Pour porter leur idée, pour faire campagne, ils donnent de la voix.
On y go ?
Attends.
Cette quinzaine de jeunes Belges, tous moins de 25 ans, ont relié à vélo Bruxelles à Luxembourgville cet été, avec des escales sur les places des villes et des villages pour expliquer leurs propositions, parfois en chanson. Lors de notre rencontre, ils entamaient un nouveau jour d'itinérance à vélo sous la pluie.
Tous les bagages sont dans la voiture.
Ils sont motivés par la création d'autres groupes de jeunes européens dans une dizaine d'États pour relayer leur campagne et par les milliers de signatures de soutien récoltées au fil des kilomètres.
On ira certainement sur la Grand Place de Luxembourg pour récolter quelques signatures.
Ces jeunes ont un an pour rassembler 1 million de signatures dans 7 États européens. C'est l'exigence pour pouvoir déposer sur le bureau de la Commission ce qui s'appelle une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire une proposition de législation pour toute l'Union. Ces jeunes demandent à l'Europe d'imposer sur tous les emballages un label qui jauge l'impact environnemental du produit.
Nous, l'idée, c'est d'avoir un éco-score général pour toute l'Europe. Un éco-score transparent qui est le même partout.
Que ce soit obligatoire sur tous les produits.
Et qu'on n'ait pas des entreprises qui en fassent un, qui les arrangent au final.
Bienvenue, nous sommes donc dans le magasin Colruyt Meilleur Prix de Halle. Et je suis Pascal Boulanger du service des affaires publiques. Et je voulais vous montrer un emballage 2 de notre marque propre. Ici, ce sont les œufs Bonny Bio. Et sur cet emballage, en face avant, vous avez donc l'EcoScore, ce qui est très important pour le client, qui peut évidemment comprendre le système assez rapidement, qui est intuitif, tout en sachant que la décision d'achat se fait en général en moyenne en 4 secondes.
Cette chaîne de supermarchés a déjà lancé l'EcoScore et veut le généraliser sur tous les produits vendus dans ses magasins en 2 ans. C'est un score visible sur l'emballage des produits du groupe et pour les autres produits, il se trouve sur une application en scannant le code barre au smartphone.
Un E, ce sont des rochers, donc une sorte de praline à base de chocolat, de cacahuètes.
Et donc, c'est quelque chose que vous commercialisez. Et
sous notre marque propre.
Vous acceptez d'afficher à la fois un Nutri-Score E et un Eco-Score E.
Tout à fait. Mais le client sera au courant. Je crois que c'est ce qui est le plus important dans l'histoire.
Comme les jeunes à vélo, Colruyt a donc choisi l'EcoScore, un label élaboré en France qui prend en compte 16 critères sur tout le cycle de vie du produit. Comment il est fabriqué, puis emballé, transporté et ce que deviennent ses déchets. D'autres magasins et industriels commencent à coter aussi leurs produits, mais selon d'autres scores, d'autres critères. Et il y a un risque de confusion pour le consommateur, voire de greenwashing.
Nous, on est bien sûr contre une prolifération de labels. La Commission européenne est en train de travailler à prévoir un cadre pour les produits de consommation alimentaire durable. Mais c'est prévu pour 2024, ce cadre. Donc nous, on se voulait d'agir aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que le consommateur est déjà en demande.
Effectivement, la Commission européenne annonce une proposition législative pour 2024. Michel Rivasi est eurodéputée chez Les Verts. Au sein de la Commission environnement du Parlement européen, elle avait déjà pris part au débat sur un autre label assez comparable, le Nutri-Score, et elle fait le parallèle.
Au départ, il y avait très peu d'entreprises qui étaient motivées. Et puis lorsqu'elles ont vu que le consommateur choisissait plus les produits qui avaient un label que sans label, eh bien les industriels s'y sont mis. Le choix du consommateur peut réorienter les entreprises pour qu'elles soient plus vertueuses.
L'eurodéputé salue donc cette nouvelle initiative citoyenne européenne, mais elle émet des réserves.
Il faut que les gens qui ont décidé cette initiative citoyenne s'appuient sur la société civile. Pour l'instant, il n'y a pas Greenpeace et il y a très peu d'organisations environnementales. Et ça, c'est dommage.
Sans le pouvoir de frappe des ONG, rassembler 1 million de signatures sera très difficile, prévient l'eurodéputé. Et à ses yeux, d'autres labels auraient été préférables, élargissant les critères au bien-être animal ou à ce qui se passe en amont de la production.
Il ne faut pas être monomaniaque que sur le CO2. Parce que si on sauvegarde le climat, mais il n'y a plus de biodiversité, eh bien là, ça peut poser problème.
Les jeunes de l'initiative citoyenne parviendront-ils à rassembler leurs signatures pour juillet? Peut-être, peut-être pas. Ils auront en tout cas diffusé dans une dizaine d'États européens une petite chanson, un débat qui va certainement aller crescendo.
Qui va t'en prendre ?
Allez, on part à Istanbul à présent pour parler culture. Impossible de rater dans le centre-ville ce bâtiment monumental avec son immense sphère rouge qui rappelle en transparence le drapeau turc. L'opéra de la place Taksim a été inauguré vendredi. Sa construction a fait débat, mais elle illustre parfaitement la volonté du gouvernement turc qui entend bien se hisser parmi les hauts lieux culturels de la planète. Les explications à Istanbul de Cerise Sudri-Ledu.
Un opéra, un théâtre, une librairie, des expositions et même un magasin de design. C'est peu dire qu'avec l'inauguration il y a quelques jours du nouveau centre culturel Atatürk, l'AKEME pour les connaisseurs, le gouvernement turc entend montrer patte blanche, jouer l'apaisement, diront certains, ce qui fustige l'emplacement de l'opéra, construit en lieu et place d'un immeuble symbole de la République turque et des protestations de Gezi en 2013. Sachant qu'il marchait sur des œufs, le gouvernement a multiplié les symboles. L'architecte est le fils de celui qui avait construit l'ancien AKEME. La nouvelle façade ressemble d'ailleurs beaucoup à l'ancienne. Et l'inauguration de l'édifice a eu lieu le 29 octobre, date anniversaire de la fondation de la République turque, une journée chômée en Turquie. Avec ce projet monumental, Istanbul cherche à devenir incontournable sur la scène culturelle internationale. Lors de l'inauguration, Recep Tayyip Erdogan lui-même s'est déplacé. Il s'est félicité de la construction d'un lieu où bat le pouls de la culture et de l'art de notre pays. Et un opéra spécialement créé pour l'occasion a été joué, relatant l'histoire de Mimar Sinan, célèbre architecte turc qui a construit l'une des principales mosquées d'Istanbul. Une promenade a aussi vu le jour le long du Bosphore, jalonnée de cafés et de magasins de vêtements. Point d'orgue des célébrations, le concert de l'Orchestre Philharmonique de Londres. Le ministre de la Culture s'est d'ailleurs empressé de faire savoir que l'acoustique du bâtiment sera la meilleure au monde. C'est ce que le chef d'orchestre lui aurait confié. Le mot a toutefois du chemin à faire car pour l'instant, la programmation de l'opéra ne court que jusqu'au 31 décembre prochain.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Nicolas Benita. Vous pouvez retrouver votre émission et vous abonner à nos podcasts européens sur rfi.fr et sur votre plateforme d'écoute favorite, bien sûr. À bientôt.